Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Ah oh non patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas Béro, volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
RMC Running, Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le grand, le seul, l'unique Yoann Durand, le maître Yodu, celui qui se remet enfin à la course à pied. Salut Yoann.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ça y est, c'était court les vacances, hein. Ouais, c'est ça.
Ah bah tu sais, c'est vrai que c'est pas des grandes vacances, hein. Là, c'est pas comme à l'école. Hein.
Ça c'est sûr. Il y a pas deux mois de pause et on revient avec une nouvelle maîtresse, là, c'est pas pareil.
C'est ça.
Bon. Yoann, je suis ravi de te retrouver. On est ravi de commencer l'été avec vous tous. Vous nous rejoignez sur Strava, sur Insta. Vous publiez vos activités dans le club. On va voir tout ce qui va se passer, vos cahiers de vacances. Vous n'hésitez pas. Le club RMC Running sur Strava. Et puis également, il y a longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais vous laissez des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement, sur Apple, sur Spotify notamment. Ça nous aide à grandir. Alors, on a un magnifique épisode. Épisode spécial Championnat de France d'athlétisme. Meeting crucial dans la course aux Jeux. C'était à Angers le week-end dernier. Les qualifications ont été obtenues pour les Jeux Olympiques, il y a eu du suspense, il y a eu des larmes de joie, Yoann, des larmes de tristesse, des adieux. Tout, on va débriefer ça aussi avec Oriane Miton du TRC, nos amis. Voilà, elle représente la belle bande du TRC, donc on va l'accueillir dans une seconde. Et puis plusieurs invités vont se succéder. Maël Gouillette, vice-champion de France du 1500, sera avec nous. Nicolas Daru, le champion de France du 3000 steeple. On attendait cette course avec impatience, Yoann. Elle a été dingue, elle nous a donné beaucoup de spectacles. On va le débriefer avec Nico. Et puis Corentin Leclésio, qui a été troisième de la finale du 800, sera également avec nous en fin d'épisode. Alors enfilez les pointes, attachez vos lacets, débrief d'un week-end de dingo.
Sacha Zoya qui est en tête à la mi-course, Sacha Zoya qui est en train de se détacher, Sacha Zoya qui sera champion de France en 13 secondes 32. Agathe Guimau tout en contrôle qui va remporter un nouveau titre de championne de France en 4-07-00, record des championnats de France. Incroyable, 1-44-0, le record des championnats est pulvérisé pour Gabriel Toile qui prend le titre de champion de France. Alice Vinot qui confirme son excellente forme et qui positionne ses pions avant les Jeux Olympiques de Paris. Charles Pinson qui l'emporte en 1-59-93, record personnel. Nicolas Marie Daru pour le doublé, c'est Romain Mornet sur 3000 sera champion de France du 1500 devant Maël Gouillette et Astinaps.
Paris.
Eh ouais. Paris s'approche, Yoann.
Paris.
Ah ouais, c'est magnifique.
Alors, là, c'est fini.
On enregistre le 1er juillet et donc les Jeux démarrent le 26. On est avec quelques qualifiés. J'accueille Oriane Miton déjà du TRC qui va.
Elle est qualifiée, Oriane.
Non, elle est. Ouais, elle est qualifiée pour suivre les Jeux avec beaucoup d'intérêt. Ah. Salut, Oriane.
Salut à tous.
Et elle sera sur le marathon pour tous. Méfie-toi, mon petit gars.
Ouh.
Eh oui, là c'est quelque chose. On a des sportifs qualifiés. On accueille Nico Daru qui est champion de France du 3000 steeple. Salut, Nico.
Salut Benoît, salut Yoann, salut à tous.
Bon, quel plaisir de te retrouver.
C'est incroyable, j'ai des frissons rien que d'entendre. J'ai des frissons rien que d'entendre le lancement de l'émission.
Bah, c'est que le début. Bah écoute, hein, bah, parce que t'as vécu un week-end fort en émotion. Un petit nouveau qu'on ne connaît pas encore, qu'on va apprendre à découvrir. Maël Gouillette avec nous, vice-champion de France du 1500. Salut Maël.
Salut à tous.
Bah bienvenue Maël et félicitations.
Merci, c'est gentil.
Bon, et puis on aura Corentin Leclésio avec nous, je le disais en fin de podcast. Le contexte, je le rappelle, hein, pour vous tous, les championnats de France d'athlé qui étaient placés à moins d'un mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'échéance d'une carrière pour la plupart des athlètes, la qualif olympique à valider. Pour chaque épreuve, Yoann, on le rappelle, il y avait un maximum de 3 athlètes qualifiés. Priorité à ceux qui avaient réalisé les minima. S'ils étaient plus de 3, ce qui s'est passé sur le 3000, les places étaient à aller chercher sur la piste. Et on rappelle, juste pour être totalement complet, que la commission justement de la Fédé d'athlée, commission de sélection, se réunira le 3 juillet pour établir la liste des qualifiés. Yoann, démarrons par ton impression générale sur ces championnats de France d'athlée si particuliers, parce qu'on accueille les Jeux dans quelques jours. Donc forcément, il y avait une pression décuplée sur l'épaule de nos athlètes, sur les épaules de nos athlètes. Comment tu les as vécus ? Est-ce que tu as vibré devant ta télé, Yoann ?
Ah ouais, dingue. C'est l'un des plus beaux championnats de France que j'ai vu en termes d'émotion, de compétition, de tout, de situation. Parce que c'est une des premières fois où c'était un peu comme les trials américains, tu vois, ouais. C'est-à-dire que sur le 800 hommes, sur le 3000 steeple hommes, sur le 110 et des choses comme ça, il y avait des athlètes, on savait que celui qui terminerait quatrième ne partirait pas au jeu, tu vois, parce que pour une fois, les championnats de France servaient vraiment de support en cas de 4 athlètes ayant fait les minima ou de 3 athlètes ayant fait les minima plus une qualification au ranking. Et donc, du coup, ça a mis du piment dans ces championnats-là. Ça a couru vite, il y a eu des moments d'émotion assez forts. Et c'est vrai que franchement, c'était un très beau championnat de France. Ouais. En plus, il y a eu des départs à la retraite d'athlètes de renom qui ont marqué l'histoire de l'athlète français. Christophe Lemaître, Edith Tamgo, Benjamin Campaoré, Renaud Lavinelli qui essaye sur son dernier concours de se qualifier pour les Jeux. Enfin, il y a eu des trucs un peu dingos. Mmh. Et donc, du coup, ça reste des grands championnats. Et j'ai l'impression que même d'un point de vue populaire, moi, je l'ai regardé à la télé, mais j'ai l'impression que le stade était quand même vraiment plein de dingue, vraiment tous les 3 jours, mais hier encore plus. Et ce qui prouve vraiment que les gens avaient envie de voir les futurs athlètes qui représenteraient le pays au JO, quoi.
Oriane, t'as vibré?
Franchement, c'était un truc de dingue. C'est vrai que Yoann l'a très bien résumé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, c'était totalement inédit. Et je trouve que ça montre bien aussi un peu le niveau français qui s'est élevé, parce qu'on n'a jamais eu affaire à des sélections olympiques comme il y a eu ce week-end. Il n'y a jamais eu besoin en fait, de faire des sélections sur des championnats de France. Donc là, ça montre bien que le niveau, il est dingue. Et je trouve que déjà, les championnats d'Europe, là, il y a 2-3 semaines, ça s'est déjà bien lancé pour le coup, la dynamique française. Et là, avec les Jeux qui arrivent à Paris, franchement, on a juste envie d'être à fond derrière l'équipe de France.
Et on a deux doigts de changer d'avis sur les twirls américains. On se dit, mais en fait, c'est pas, c'est pas mal ce système. On aime bien, nous aussi, on vibre.
C'est pas mal quand tu regardes quand t'es dans les trois. Mais
c'est sûr.
Va dire exactement. Ça au quatrième.
Alors justement, on va donner la parole à nos champions dans un instant. Mais tu l'as dit, Johan, le fait marquant aussi de ces championnats de France, c'était le crépuscule de certains champions. Pas de JO pour Renaud Lavillenie. Il n'a pas atteint les minima qui étaient fixés à 5,82 au saut à la perche. Il a échoué à une barre à 5,60, donc forcément beaucoup de déception pour lui. Pas de JO non plus pour Teddy Tamgo, c'était un pari fou au triple saut et vouloir revenir finalement. Il sera coach. Pascal Martineau-Lagarde, lui aussi, qui a beaucoup représenté l'équipe de France et qui l'a porté haut, ce maillot tricolore, et qui n'ira pas à Paris. Et puis Quentin Bigot aussi, au lancer. Déception pour lui, parce que lui aussi, on se disait que ça pouvait être une chance de médaille. Ça fait quelque chose de voir quelques champions s'arrêter, parce que d'autant plus pour toi, Johan, parce que ça fait partie de ta génération.
Exactement.
Lavillenie, Martineau, etc. Là, c'est une page qui se tourne dans l'athlétisme français quand même.
C'est la page de Londres, Rio et un peu Tokyo, tu vois, qui se tourne. C'est ceux des championnats d'Europe de Zurich où il y avait eu des résultats exceptionnels. C'est toute cette génération-là, même à Rio, il y avait eu des très bons résultats. Effectivement, alors après, c'est l'histoire du sport. Et quand tu vois la nouvelle génération qui est derrière, tu sens que derrière, il n'y a pas un no man's land, tu vois. Derrière, il y a un vrai vivier. Donc, du coup, en tant que suiveur, spectateur, tu te dis, c'est l'histoire de la vie, mais derrière, l'équipe de France, elle est belle parce qu'il y a des futurs champions qui arrivent. Sacha Zoya, excuse-nous, mais ça va être, ça va être monstrueux les années à venir. Et c'est pareil à la perche, Thibaut Collet va prendre le lead que Renault va laisser. Ils seront remplacés assez naturellement par des grands champions qui arrivent,
Ouais, Oriane, t'es d'accord. C'est vrai que voir Lavillenie qui n'ira pas à Paris, ça fait un petit pincement au cœur.
Ça fait mal,
C'est vrai que ça fait bizarre parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui nous a fait vibrer. Moi, je vois de ma génération, c'est quelqu'un qu'on a toujours vu, qu'on a vu au sommet. Et là, on passe à une nouvelle génération, Christophe Lemaître qui part.
Christophe Lemaître aussi,
Mais c'est vrai que comme tu dis, on voit aussi toutes les personnes qui arrivent derrière et pour le coup, il y a une vraie dynamique et on a envie de voir la suite.
Est-ce qu'on y va sur la guerre des étoiles? Le 3000 mètres steeple, il est avec nous, Nicolas Daru, justement. Ils étaient 4 hommes pour 3 places, on vous le dit. Alexis Miele, champion d'Europe du 3000 steeple, parce que ça aussi, on avait vibré à Rome, tu l'as dit, Oriane, il y a quelques jours. Djilali Bedrani, qui avait fini vice-champion d'Europe, on a eu une course fantastique. Louis Gilavert, qu'on a reçu il y a quelques jours, Johan, qui avait fait les minima et qui n'a pas pu aller à Rome, mais qui était motivé comme jamais.
Qui n'a pas été sélectionné pour Rome.
Qui n'a pas été sélectionné, tu as raison. Et Nico Daru, qui est là, lui, il était à Rome aussi. Nico, quelle histoire. Nous, on l'a raconté, on t'a reçu, on a eu le bonheur de te recevoir après les championnats de France de cross quand tu avais remporté le titre sur le cross court. Nico, c'est une carrière qui démarre entre guillemets d'un point de vue professionnel sur le tard. Et là, tu es là, tu vas chercher ce titre de champion de France sur une piste détrempée samedi soir. Quelle performance! Déjà, on veut te féliciter, Nico, mais est-ce que ça, quoi qu'il arrive, là, il y a Paris qui arrive, ça va être fantastique, mais la course de samedi soir, c'est d'ores et déjà l'un des plus beaux souvenirs de ta carrière, Nico.
Ouais, merci bien. Effectivement, la course de samedi, je pense qu'elle va avoir une place particulière dans mon cœur. Tout d'abord parce que c'est mon premier titre en extérieur, sur piste, et puis parce que c'est le titre qui m'offre en fait ma place à Paris. Donc celle-là, je pense qu'elle restera tout en haut, et je pense que bon, j'espère qu'il y en aura une qui la délogera, mais je pense que ça sera difficile.
Parce que on le disait, le contexte était très particulier. Tu te retrouves quand même en course avec des mecs qui sont très forts sur le papier, donc c'est hyper dur. Hein. Alexis Miele nous a fait rêver à Rome, il arrive un peu blessé, on ne sait pas trop où il en est. Djilali Bedrani a fait deuxième, on se dit il est costaud aussi. Louis Gilavert, lui, était très en forme, il n'était pas à Rome, il était hyper motivé. Tu étais dans quel état d'esprit au moment du départ, toi, Nico? Tu t'es dit, allez, je tente le tout pour le tout, j'ai rien à perdre et j'y vais sans stress même?
Ouais, complètement. En fait, je suis arrivé avec une seule volonté, c'était de gagner pour ne pas subir les affres des modalités de sélection et que ce soit clair. En fait, j'y suis allé sans stress parce que j'avais rien à perdre. J'avais pas fait les minima, j'étais qualifiable au ranking, mais les trois qui étaient devant moi avaient fait les minima, ça aurait été normal que ce soit eux qui y aillent. Donc j'y suis allé sans stress, avec une seule volonté, c'était de gagner. Et je me suis dit, voilà, tu t'accroches, et puis à la fin, tu prends tous les risques qui te permettront de passer la ligne devant eux. Donc j'ai vraiment pris tous les risques. J'ai failli en prendre un peu trop, puisque sur la dernière barrière, on ne voit pas trop, mais j'ai le genou de ma jambe de retour qui tape la barrière, ce qui me désaxe et qui me fait perdre quand même un petit peu de vitesse. Mais voilà, j'ai dit, c'est simple, la dernière barrière, c'est où je la passe et je gagne, ou je la passe pas.
Donc tous les risques ont été pris, voilà. Oui. Tu t'es dit, t'étais à fond quoi, sur ce dernier obstacle. Johan, c'est franchement, moi, c'est la course que j'attendais le plus sur ces championnats de France. Parce qu'on le savait, nous, on avait fait monter la sauce ici aussi. c'est une discipline qu'on adore, en plus, le 3000 steeple. Et là, on a vraiment vibré, quoi.
Ah, bah, c'était dingue. Surtout que il y a eu plein de petits trucs bizarres avant la course, à savoir Alexis Miele, champion d'Europe, qui annonce sur une interview dans l'équipe qu'il est blessé, ouais. Mais que du coup, ça veut dire que le champion d'Europe presque peut passer à la trappe, tu vois, parce que dans les critères de sélection, ils n'ont pas mis une place ou un podium au championnat d'Europe quelques mois avant te donnerait une place prioritaire, tu vois. Ouais. Non, c'était pas inscrit comme ça dans les modalités de sélection, donc il fallait absolument qu'il court et qu'il fasse dans les trois premiers. Là, tu savais, parce que Nico a pas fait les minima, mais il était dans le top 24 au ranking, ce qui est, pour la fédération, revient au même plan qu'avoir fait les minima, tu vois. Il était autant sélectionnable que les autres, tant qu'il restait top 24. Et donc, on savait que, admettons, Nicolas refait second des championnats de France et au ranking, il serait passé 25e. Il aurait perdu une place au ranking en fonction des résultats des championnats nationaux. Il n'allait pas au jeu. Donc, pour lui, en plus, il y avait cette difficulté-là où il devait faire un podium. Ça ne lui assurait pas forcément la sélection pour les Jeux Olympiques. Il devait attendre les résultats des autres nations pour voir si un mec lui passait devant au ranking, sauf s'il était champion de France, et dans ce cas-là, il fallait être dans les 32. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il le dit très bien, qu'il a tout fait pour gagner. Et du coup, c'est vrai que ça a été une magnifique course parce qu'ils arrivent, ils débouchent à 4 dans la dernière ligne droite.
C'est incroyable, dernier virage et, d'ailleurs. Mieux placé, Nico, d'ailleurs, tu pourras nous en parler. Mais c'est là que tu produis ton kick parce que c'est là que tu fais la différence. Et c'est ce dernier obstacle qui te permet de prendre l'avantage et d'enchaîner sur un sprint, Nico.
Ouais, carrément. En fait, sur la dernière rivière, j'ai réussi à faire ma place tout à l'extérieur et pouvoir prendre la rivière. Qui est un de mes points forts en fait avec un peu plus de vitesse à sortir sans ralentir et donc en fait j'arrive avec un poil plus de vitesse qui me permet de limite de doubler à l'extérieur et de m'aligner avec eux et puis après voilà sur les barrières je sais que j'ai pas la même vitesse de pointe que Louis, que Alexis ou que Gila. Mais par contre, voilà, sur les barrières, techniquement, j'ai peut-être un petit avantage. Donc, mais c'était incroyable cette dernière ligne droite, se retrouver côte à côte avec eux à 4 de front. C'était incroyable pour nous, et puis je pense que ça devait être incroyable pour le public.
Ouais, c'était fou.
Savoir qui allait gagner.
Il fallait connaître le contexte, mais quand tu le connaissais, c'est vrai que là, tu regardais tous les coureurs. Bah, Ryan, t'as dû vibrer. Toi, t'es une passionnée d'athlète. Là, t'as vu ce dernier virage, dernier obstacle. Tu te dis, oh là là, ça a vraiment joué au...
Surtout qu'en plus, je trouve que rien n'est joué parce qu'il y avait quand même Alexis Miele qui a un ancien international très costaud sur 1500 mètres. Ouais. Donc, on se dit que la dernière ligne droite...
Tu sais que le finish, normalement, c'est son fort. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, tu dis que jusqu'au dernier moment, il n'y a rien qui est joué. Et ouais, la victoire est encore plus belle. Quoi.
Mais finalement, ta stratégie, c'était... alors, je ne vais pas dire... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est peut-être la plus avantageuse parce que toi, tu étais moins dans le calcul que les autres, Nico. C'est-à-dire que quand tu regardes même la dernière ligne droite, Louis... et Alexis ont toujours un œil sur le côté pour voir s'ils sont bien dans les trois et ils vont bien se qualifier. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu n'as pas de calcul à faire. Toi, tu accélères à fond et de toute façon, tu te retrouves tout seul sur les 50 derniers mètres. Mais on sent que les autres gardent un œil sur la gauche ou sur la droite pour voir où est Gilali et s'ils sont bien sur le podium.
Ouais, effectivement. En fait, je pense que j'ai bénéficié un petit peu du marquage des trois autres lorsque je prends la barrière et que je la passe en tête. Après, je pense qu'ils se sont pas mal observés. Je pense aussi que je bénéficie du fait que Alexis, avec sa blessure au mollet, a peut-être pas trop poussé ou en tout cas, il a mis ce qu'il fallait pour assurer sa place, mais peut-être pas pour gagner. Voilà. Et puis, pour revenir sur le ranking, comme disait Johan, heureusement que j'ai gagné puisque une heure après ma course, en fait, mon manager m'a appelé en me disant « Écoute, il y a Victor Ruiz, un Espagnol qui était juste derrière moi, qui a fait deux au championnat d'Espagne et qui va me passer devant au ranking pour un point. »
Oh là là.
Donc,
là,
si tu n'avais pas gagné, tu n'aurais été pas sélectionnable à cause d'un point.
C'est ça, j'allais plus au jeu.
Ouais, quelle histoire.
Mais par contre, dans la dernière ligne droite, si tu regardes les images et les photos, celui qui a vraiment la hargne et l'envie, tu vois que c'est Nico. Hein.
C'est
et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Quand tu calcules un petit peu, tu fais un truc, tu n'es pas à 150%, tu vois, c'est celui qui avait le plus envie qui a gagné pour moi. Là.
Raconte-nous l'émotion. Tu passes la ligne, tu es champion de France, tu comprends tout. Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Nico?
Ouais, sur le coup, c'est un mélange d'émotions. En fait, je savais pas trop ce qui m'arrivait. c'est la première fois que ça m'arrive, autant cet hiver en cross. Bon, c'est ma discipline où je suis peut-être le plus fort, où je m'y attendais un peu. Autant là, je me dis, champion de France sur ce type, devant Louis, devant Alexis, c'était incroyable. Et en fait, il m'a fallu bien 3-4 minutes. Et puis au bout de 3 minutes, je me suis assis sur la piste, j'ai commencé à réaliser. Et puis là, j'ai senti les larmes monter et puis je pouvais rien faire. J'étais là, je me disais, mais pourquoi tu pleures en fait?
Ouais, c'est génial.
Et en fait, là, j'ai vraiment compris que j'allais aller au jeu, sauf cataclysme, mais que ma place était assurée et que dans 5 semaines, je serai sur le Stade de France. Quoi.
Quelle histoire. 35 ans, Stade de France, tu vas te régaler. Les Jeux Olympiques à Paris, franchement, nous, on est ravis pour toi. On avait adoré raconter ton histoire. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur Rome, ce qui s'est passé pour toi? Parce que là aussi, ça avait été réussi quand même, il ne faut pas se mentir. Tu avais atteint la finale du 3000 steeple. Un peu, une performance un peu effacée par la perf stratosphérique des autres, parce qu'on l'a dit, Alexis fait champion d'Europe et Gilali fait deuxième. Mais toi, c'était déjà un niveau très relevé, quoi. Peut-être que tu as des regrets sur la finale, mais tu avais réussi tes championnats quand même.
Oui, complètement. Ouais. Sur le coup, à l'arrivée de ma finale, j'étais hyper déçu de moi parce que j'ai été attentiste et j'ai jamais rien tenté. Mais avec du recul, c'est sûr que faire sixième pour une première finale internationale, enfin déjà aller en finale et faire sixième, bah, en fait c'est incroyable. Je sais d'où je viens, je connais la vie que j'ai eue avant de revenir à l'athlée. Et puis voilà, si on m'avait dit ça il y a même 3 ans que je ferais une finale aux Europes et puis que je me qualifierais aux Jeux Olympiques après des qualifications comme ça, j'y aurais pas cru, j'aurais rigolé et puis voilà, mais c'est incroyable.
La période qui s'ouvre est particulière parce que là tu as l'euphorie, la satisfaction de te qualifier pour les Jeux. Tu vas quand même te reconcentrer parce qu'il faut être performant, et là c'est vraiment l'élite mondiale qui va se retrouver au Stade de France. Tu vas aborder ces Jeux comment alors, Nico? Tu vas les aborder avec plaisir, envie et surtout zéro stress, ou est-ce que tu y vas quand même avec détermination et l'ambition? Je sais pas, tu vises quoi, la finale mondiale, la finale olympique?
Ouais, alors pour les Jeux, je pense que je vais essayer d'être dans le même état d'esprit qu'au championnat d'Europe sur la série, à savoir jouer ma carte avec toutes mes qualités. Et le but, voilà, c'est pas de faire de la figuration. En tout cas, moi, quand je m'aligne au départ d'une course, c'est jamais pour faire de la figuration, faire deuxième ou troisième. Je suis complètement réaliste sur le fait que je pourrais pas être médaillé olympique, sauf gros accident, tout le monde tombe devant moi. Mais
et pourquoi pas?
Mais par contre, ouais. Mais par contre, j'ai vraiment envie d'aller en finale. Je sais que j'en ai des qualités. Le fait qu'il n'y ait plus de qualifiés autant peut me favoriser aussi. Donc voilà, j'irai au jeu avec l'ambition de faire une finale. Et après, en finale, je sais que tout est possible. En tout cas, pour aller chercher une très bonne place le 7 août.
Ouais, c'est beau. Découvrir les Jeux à 35 ans, en tout cas, félicitations encore. On peut peut-être avoir tous, Oriane, Johan et Nico, un mot pour Djilali, le pauvre, parce que c'est lui le grand battu de cette histoire. Il fait vice-champion d'Europe début du mois. Et là, à la fin du mois, Johan, il se retrouve hacké. Voilà, il ne pourra pas aller aux Jeux de Paris. C'est la dure réalité de la vie d'athlète de haut niveau, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est... Tout à l'heure, je parlais des modalités de sélection où ils n'ont pas pris en compte un possible podium au championnat d'Europe. Tu vois, tu aurais pu te dire que…
ouais, t'as raison.
Parce qu'ils avaient mis top 8 au championnat du monde à Budapest de l'an dernier, qui te rendait prioritaire. Mais ça, c'était des championnats d'Europe d'il y a plus d'un an maintenant. Alors que plus d'un an. Et là, on avait des championnats d'Europe un mois avant l'événement, et tu aurais pu te dire que, bah, par exemple, des mecs qui font podium au championnat d'Europe, bah, un mois avant l'événement, ils sont en forme, c'est quand même une belle perf, donc ils auraient pu être prioritaires, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, bah, ouais, c'est la dure loi du sport, et Gila qui avait fait les minima, qui a fait une bonne saison, hein, qui a fait une très belle saison, il fait deux aux Europes.
Minima vice-champion d'Europe, et il ne va pas au jeu.
Ouais, et tu ne vas pas au jeu parce que ton épreuve est… Et il y a une vraie densité. Et en plus, il manquait Mehdi Belhadj qui a été blessé et qui est un mec qui a couru en 8-12 et qui aurait pu potentiellement être parmi les qualifiés. Enfin, c'est pour vous dire le vivier qu'il y a dans cette discipline.
Nico, tu as eu un mot pour lui, tu l'as croisé parce que c'est difficile en ces moments-là. Toi, tu as l'euphorie de ton cas personnel, mais ensuite, tu as ton pote à côté qui passe à côté des Jeux, quoi.
Ouais, effectivement, j'ai juste eu l'occasion de le croiser le soir, 2 minutes. Voilà, c'est sûr que être quatrième et ne pas aller au jeu, ça doit être hyper difficile. Voilà, franchement, je peux pas me mettre à sa place parce que je sais pas, je peux pas savoir ce qu'il vit. Je pense que tant qu'on ne l'a pas été, c'est hyper difficile. Voilà, mais c'est sûr que forcément sur une course comme ça, il y allait avoir un déçu. C'est Gila cette fois-ci, ça a été Louis au championnat d'Europe et voilà, un jour ça sera peut-être moi. Bon, je l'espère pas, mais c'est sûr, ouais, c'est compliqué, quoi.
Bon, eh ben, tu restes avec nous, Nico. Voilà, on va débriefer les autres courses. On vous l'a dit, le TRCLA, The Running Collective. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site parce que vous retrouvez les meilleurs articles running au meilleur prix. C'est ça, des tarifs inégalables. Voilà, il y a le patron qui me regarde, donc je le dis.
C'est bien vendu, ça.
Voilà, il y a Oriane qui est avec moi parce qu'Oriane est souvent là pour débriefer les grands moments de sport et d'athlé en particulier. Parlons donc de ce 1500 parce qu'il fallait qu'on accueille un Breton, Maël Bouillette avec nous. C'est ça. C'est obligatoire. C'est estampillé Bretagne. Il faut qu'il y ait un membre de la Bretagne qui soit avec nous. Et parlons de cette finale du 1500. C'était l'occasion pour toi de valider ta présence aux Jeux Olympiques. Toi aussi, c'est différent. Tu as 10 ans de moins que Nico Daru. Tu as 25 ans. Donc, tu as encore une belle carrière qui t'attend face à toi, Maël. Tu as eu, toi aussi, des bons résultats qui se sont enchaînés. Et là, tout se déroule parfaitement. Il y a eu ces minima olympiques réalisés au meeting de Nice il y a deux semaines. 3,43,86 sur 1500. Il fallait que tu valides ça par un podium au championnat de France. Et ben voilà, tu as réussi ton objectif puisque tu as terminé deuxième, Maël. C'est comme ça que ça s'est passé.
Oui, complètement. C'est vrai que bon, j'arrivais sur ces championnats de France, même si ce n'était pas officiel. Je savais que... Voilà, il fallait faire une bonne figuration, mais moi, mon objectif, c'était clairement de jouer le titre. Je le cachais pas. Et voilà, ça s'est bien déroulé jusqu'à, on va dire, 20 mètres de la ligne. Et puis après, il y a eu ce... Voilà, on était tous les trois avec Asdine et Romain sur la même ligne. Et puis voilà, Romain était plus fort samedi soir. Et je le félicite d'ailleurs, parce qu'il fait une grosse saison également. Et puis pour moi, voilà, c'est une satisfaction, parce que je valide mon billet pour Paris. Voilà, c'était un rêve il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est la réalité. Donc voilà, je suis super content. Et je peux dire que voilà, ce mois de juin a été riche en émotions. Ça a commencé voilà, avec de la déception. Ça se finit par une immense joie. Donc c'est la beauté du sport, la beauté de l'athlétisme. Donc comme je le dis, c'est, voilà, l'athlétisme, c'est des émotions. Et quand ça arrive, enfin, voilà, faut en profiter, faut vivre le moment présent. Et c'est vrai que c'est juste incroyable.
On a vibré au TRC pour Maël.
Ah bah oui, pas qu'un peu, ouais. Surtout que là, Maël, t'as battu ton record de 3 secondes, je crois, entre l'année dernière et cette année.
Ouais, exactement, ouais, un peu plus de 3 secondes. Donc,
ce qui est énorme, voilà. Sur 1500 mètres.
3,32 à Nice. Hein.
Oui.
Ouais, c'est énorme. C'est ça, ouais. 3,32,67.
Donc là, je pense que ça permet vraiment de valider un nouveau palier et de rentrer dans une dimension, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que voilà, je travaille vraiment depuis... Depuis des années, j'ai pris le choix de partir aux États-Unis pour clairement me concentrer sur la course à pied. Pendant 2 ans, je suis rentré en France l'année dernière. J'ai gardé voilà la même méthode d'entraînement qu'aux États-Unis avec mon coach qui est là-bas et puis mon coach à Rennes aussi qui me suit. Donc voilà, on est une équipe, on avance ensemble et voilà, je progresse énormément, très vite, et il y a encore une marge de progression pour atteindre vraiment le gratin mondial. Aujourd'hui, voilà, je suis, on va dire, en bas de l'escalier mondial. L'objectif, c'est d'arriver tout en haut, et je sais que j'en ai les capacités. Mais voilà, faut du temps, faut de la patience. Hein, ça prend énormément de temps d'arriver au très haut niveau. Donc voilà, je prends étape après étape, et comme je le dis, je prends énormément de plaisir, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et je pense que c'est ça le plus important au final.
Ouais. Là, on a des gens avec nous, Johan, qui aiment souffrir. Hein. Le 1500, le 3000 steep, là, on aime se faire mal. Hein. Là, on aime le lactique, on aime.
Ah oui, ouais. Et puis, c'est des disciplines avec une forte densité d'athlètes de haut niveau. Hein. Il y a Maël et Asdine qui ont fait les minima. Tu vois, Romain Mornay gagne la course, mais malheureusement, lui, il est trop loin au ranking pour espérer une qualif au jeu. On avait Baptiste Michler qui a fait les jeux à Tokyo. Il y avait Flavien Schott qui a fait 3,34. Enfin, il y a vraiment du monde sur cette discipline. Il y avait, je crois, c'était 14 athlètes qui avaient fait les minima pour Rome. Donc, belle discipline. Et effectivement, bah, Maël, il a un peu le même profil que Asdine, à savoir un coureur un peu puissant, tu vois, très fort dans les emballages, qui peut se faire sa place dans le peloton parce qu'il n'a pas un petit gabarit, il est quand même relativement tanké, et donc ça veut dire qu'il a un gros moteur, quoi, et quand il faut envoyer, c'est solide. Après, c'est dommage, la saison elle est parfaite et on va voir ce qu'il va faire au jeu, mais à Rome, je pense qu'il aurait pu...
Justement, tiens, on peut en parler avec Maël.
C'est un peu le point noir de son début de saison, sinon ça aurait été le début de saison parfait.
Eh ouais, Maël, parce que toi, tu y étais à Rome, tu étais qualifié pour les championnats d'Europe, cette déception de l'élimination en série. Donc là aussi, parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental et le moral. C'était un coup dur et tu as su vite rebondir quand même.
Ouais, exactement. C'est vrai que j'arrivais aux Europes avec énormément d'ambition. Et puis voilà, il y a eu ce déroulement en série où voilà, honnêtement, les 16 athlètes pouvaient passer en finale parce que c'était une série hyper tactique. On est parti sur des bases très très lentes de plus de 4 minutes. Et par contre, le dernier 500, ben, on finit tous en 1-5, 1-6. Et moi, il m'a manqué, voilà, on va dire 40 mètres. C'est vrai que je produis un effort sur ces courses-là. En fait, ça joue à une fraction de seconde. Si tu ne mets pas l'énergie au bon moment, tu le payes sur la fin. Moi, j'en ai payé les frais dans les derniers 40 mètres où clairement, j'avais plus l'énergie qu'il fallait pour aller chercher le top 6. Et ouais, c'était vraiment une énorme déception parce que j'étais en forme, je suis en très grande forme. Et on s'était dit avec le coach, c'est un peu comme des courses à l'américaine où bah, j'ai fait les championnats universitaires l'année dernière où le niveau il est juste incroyable. Ah ouais. C'était exactement la même physionomie de course. L'année dernière, je passais pour une place aux nationaux NCAA. Aujourd'hui, je passe pas aux Europes. Donc, j'apprends énormément de cette expérience et j'étais très frustré. Et ouais, j'ai mis une heure à évacuer cette déception. Et voilà, on s'est appelé avec le coach, on s'est dit voilà, la saison elle est loin d'être terminée, on sait que voilà, je suis en très grande forme, et on s'est dit voilà, il faut trouver une course dans les allez, je voulais pas attendre une semaine, je voulais dans les le plus vite possible recourir en meeting. Et puis il y a le meeting de Nice qui était 4 jours après, et ça tombait super bien, je savais que j'avais les jambes, mais le plus challengeant, c'était de switcher mentalement et de remobiliser, d'évacuer voilà, toutes ces frustrations et surtout ne pas dépenser d'énergie à repenser à la course, j'aurais dû faire ces choix, etc. C'était vraiment une heure après, hop, j'avais oublié ces championnats d'Europe. Je suis resté quand même à Rome parce que voilà, il y avait une émulation qui était juste incroyable avec le collectif de l'équipe de France. Chaque soir, il y avait 4-5 médailles qui revenaient à l'hôtel. Donc, c'était juste incroyable. Et j'ai profité justement de cette énergie positive pour moi me mettre aussi dans cette positivité. Et puis, penser à ma course qui arrivait à Nice 4 jours plus tard. Et puis, c'est vrai que je suis arrivé à Nice, j'avais un total confiance en moi. Je savais que j'avais les jambes, je fais ma veille de course, ça déroulait, etc. Donc, voilà, je savais que j'en avais les capacités. Maintenant, il fallait le mettre en place dans la course. Et voilà, ça se déroule par un 3.32 où j'explose bien mon record, même la barrière des minima également. Donc, et puis, ça me permet voilà, de me projeter sur la suite de la saison.
T'imagines, Johan, le choc, passer des meetings de fin fond de la Bretagne au championnat universitaire des États-Unis. C'est fou, ça. Déjà, il y a moins de pluie, déjà. Plus de monde.
Il n'y a pas le biniou et tout.
Ouais, c'est pour te chambrer un peu, hein, Maël. Non, mais question que j'aimerais bien vous poser à tous les deux, à Nico et à Maël, parce que là, les échéances sont très rapprochées et puis elles étaient toutes importantes. Il y avait Rome, il y avait les championnats de France. En plus, il y a eu Nice pour toi pour valider les minima, Maël. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Comment on gère le pic de forme? Parce que là, c'est un enfer pour les coachs. Maël, vas-y, et puis on donnera la parole à Nico après.
Avec les coachs, on ne fonctionne pas en pic de forme, mais plutôt en plateau de forme. Et l'objectif, c'était de commencer le plateau de forme aux Europes. Donc c'est vrai qu'aux Europes, je n'étais pas à 100%. Aujourd'hui, voilà, ça commence à monter la forme. Mais l'objectif, voilà, on a ciblé, on va dire, la mi-août, avant juste la période des Jeux, pour être vraiment au summum, au top du top. Et voilà, aujourd'hui, je sens que physiquement, je suis très très bien. Je pense que le plus important, c'est de bien être mentalement, rester en bonne santé, ne pas tomber malade, etc. Je pense que c'est ça le plus important. Et effectivement, mes coachs font un boulot incroyable pour justement me garder en forme. Et je les remercie pour ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand il y a une saison qui est assez longue comme ça, de bien choisir ses planifications, etc. Donc, je leur fais totalement confiance et je sais que j'arriverai vraiment en très grande forme à Paris avec vraiment beaucoup, beaucoup d'ambition. Et pour ne pas faire juste de la figuration, j'ai vraiment, comme a dit Oriane, passé un cap et à moi de continuer sur cette lancée et d'arriver à Paris pour aller chercher vraiment des grosses choses.
Comment gère le pic de forme? Comment tu le gères, Nico, toi, notre stipleur, alors?
Je vais pas être très original parce que je pense qu'avec Maël, on a un peu les mêmes méthodes d'entraînement où on passe quand même pas mal par le volume, pas mal par des séances de seuil. Et donc, en fait, j'ai pas de gros pics dans l'année, hormis ce qu'on avait prévu là pour la fin de la saison pour les Jeux. Mais par contre, en fait, j'ai toujours un fond de fatigue et de travail qui est quand même assez permanent, que j'entretiens afin de ne pas déclencher de pics trop tôt. Bon, là, forcément, pour les championnats de France, il fallait être prêt. Donc, j'ai dû me reposer un petit peu avant les championnats de France. Surtout, j'ai été malade la semaine d'avant en partant en Finlande courir. Mais voilà, Jérémy, mon coach à Grenoble, gère très bien ça. J'ai la chance de l'avoir à mes côtés et qui me prépare vraiment de manière optimale. Concrètement, depuis 3 ans qu'il me suit, en fait, je ne suis jamais passé à côté de course. Enfin, je n'ai jamais été fatigué ou hors de forme lors d'une course. Donc, en fait, j'ai juste à fermer les yeux, à suivre son plan d'entraînement et puis à faire ce que je sais faire, à savoir courir, quoi. Et pour le reste, c'est lui qui gère, quoi.
Et ouais, bah, au moins c'est encourageant parce qu'on se dit que vous allez arriver en forme par rapport aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu as le stress des séries du coup avec ce qui t'est arrivé à Rome, Maël, ou non ?
Non, au contraire, justement, je prends ça comme de l'expérience et maintenant je sais, voilà, on va dire les petites erreurs que j'ai fait à Rome, je ne les referai pas à Paris. J'ai essayé de commencer à mettre ça en place dans les séries au championnat de France, à savoir, je savais que ça allait pas forcément courir, mais par contre faut faire un très gros 500 et voilà, j'ai essayé de commencer à travailler voilà l'approche des JO sur ces séries du 1500 mètres. Ouais. Donc voilà, puis là il nous reste, on va dire, un mois pour travailler ça, justement travailler tous ces changements d'allure, parce que maintenant avec les nouvelles modalités ça va être que à la place, donc il y aura plus de temps qualificatif, donc va falloir voilà bien travailler les fins de course et finir en boulet de canon. Donc franchement on va bien travailler, comme le dit Nico, j'ai un gros volume d'entraînement on va dire pour un coureur de 15, donc ça va me permettre de bien encaisser.
C'est quoi un gros volume?
Moi par exemple en période d'entraînement, je suis à 180 km par semaine.
Ah oui, c'est un gros volume.
Et là, en période de compète, on redescend à 140, 150, quoi. Donc, je garde vraiment une grosse base foncière pour garder voilà tout mon tonus musculaire. Ah. C'est vrai que si je descends en dessous des 140, 130, je me sens un peu moins bien. Donc,
Johan Durand en PLS là. À 180 pour un coureur de 15.
Non, et en plus, c'est quelqu'un qui court beaucoup en compétition. Il a déjà fait 12, 1500 cette année. Hein.
Ouais, c'est énorme, fait, 12. C'est vrai qu'avec notre méthode, on privilégie voilà, tout ce qui est foncier, etc., musculation à l'entraînement.
Et
je fais pas, je fais pas beaucoup de spé, pour être honnête, j'ai fait qu'une spé depuis le début de la saison. Que des compétitions et c'est ça qui me fait monter la forme, quoi. Par contre, c'est vrai qu'en début de saison, je sais que je vais me prendre
des roustes,
mais je sais qu'en fin de saison, ça va monter et que je serai là, quoi.
Tu te rends compte, Auriane, 180 bornes pour
un coureur de 1500.
Un coureur de 1500, c'est fou.
Mais tu courais autant avant de partir aux États-Unis ou c'est là-bas que tu as commencé ?
Non, c'est vrai que c'est là-bas que j'ai commencé vraiment
la culture.
La culture de la borne.
Eux, ils adorent ça, effectivement, enchaîner les kilomètres. Avant d'accueillir, tiens, Corentin Leclésio qui va arriver dans quelques secondes, on peut dire un mot des autres résultats. On l'a dit, la frayeur pour Sacha Zoya, vous avez suivi ça hier, c'était fou quand même.
Mais il est monstrueux.
C'est incroyable, son starting block qui se décroche. Et donc il croit un faux départ, il se dit je vais pouvoir repartir, puis en fait il réalise vite que les
gens personne ne réagissent pas. Marathon, c'est que ça se joue à des centièmes de seconde. Hein.
Il accélère, il repart tout de suite, il termine deuxième de sa série pour ensuite gagner la finale. C'est quand même l'une des images de ces championnats de France et ça prouve le mental de Sacha.
Le mental et le niveau physique,
c'est ça. Et en fait ça nous rassure parce que c'est quelqu'un qui nous fait peur, on a beaucoup d'espoir en lui. Mais on avait des doutes sur les grands championnats, Ryan, et là il a prouvé que, en tout cas, même mentalement, il était au niveau, parce que réagir après un fait de course comme celui-là, c'est impressionnant.
C'est vrai qu'on ne sait jamais trop avec Sacha Zoya sur quel pied danser, parce qu'en plus il est un peu jeune, donc il s'éparpille un peu partout. Et là, pour le coup, on a vu que il pouvait mentalement se remobiliser super vite. Mmh. Et là, il nous a fait quand même un départ arrêté où il a fait son 110 mètres haies, où il était debout et il est reparti. Ouais. Donc non, pour le coup, pour les jeux là, c'est vraiment vraiment encourageant. Ouais.
C'est fou ça, Johan, quand même, cette image.
Départ arrêté, ouais, c'est pas mal.
Non,
c'est fort, ouais. Il est très fort. Donc c'est impressionnant ce qu'il a fait, ouais.
Je voulais parler aussi du 400 mètres haies avec des minima décrochés. Hein, Louise Maraval, qui a été énorme avec ce duel avec Shana Grebo. Hein, les deux qui ont été magnifiques. Elles réalisent les minima, donc elles iront à Paris. Belle performance pour 400 mètres haies. Vous avez suivi chez les dames que le record du monde a été battu quand même hier soir, la nuit dernière, par la grande championne, hein, évidemment, Sydney McLaughlin, c'est ça ? Voilà. Magnifique performance. C'était sublime ce qu'elle a fait à la fin des trials américains. Américain. Un mot du 5000 mètres quand même, notre pote Yann Schrub, Johan.
Il a été fort. Hein.
Bon, qu'est-ce qu'il est fort en ce moment, lui. Ah ouais, ouais. Minimal est aussi pour 5000 sur 5000, devant Hugo et d'ailleurs, qu'on salue lui aussi. Quelle perte de notre docteur, hein, Johan, encore.
Non, très fort, très belle course. En plus, c'est pareil, tu vois, le 5000, il y avait quand même un bon niveau parce que tu avais des mecs comme Donovan, Christian, Valentin Gondouin,
ouais, Donovan, encore des
Romain Legendre, des gens qui ont tous couru aux alentours de 13-15, Bastien Augusto. Et donc, bah, tu te dis dans un emballage, ces coureurs-là, ils peuvent, tu vois, sur une course au train, c'est sûr que Yann est meilleur, mais dans un emballage, Yann est un coureur de 10 000. Tu te dis qu'il peut être pris, et puis en fait il est jamais pris, quoi. Il est vraiment fort. Hugo il revient d'une petite blessure, donc pareil, il a assuré le podium pour se qualifier au jeu. Dommage qu'il n'y ait pas eu Jimmy, parce que j'aurais bien voulu voir un nouveau fight Jimmy Yann, parce que Yann est vraiment vraiment impressionnant, hein.
Ah, Yann nous a bluffé déjà à Rome. Hein.
Faire ça sur 5000, je trouve ça très encore fort. Hein.
Et puis Yann, on veut toujours le voir devant, comme ça on va voir son poulet sur sa tête. C'est toujours ça le truc. Ouais, son coq.
Bah là, il y a des chances qu'on le voit encore devant parce que les deux peuvent matcher un top 8 au jeu. Et puis après, sur un malentendu.
Un mot du sprint chez les dames. Féliciter Jemima Joseph quand même, qui fait doubler 100-200. Elle a fait les minima sur les deux disciplines, d'ailleurs, sur les deux distances. Donc elle sera là, 22 ans. Donc elle aussi, elle nous régale. Il n'y aura pas de Français qualifié sur 100 mètres. C'est une déception quand même, Johan.
Oui, bah ça, ouais. Ouais.
Un petit trou générationnel.
Un petit trou, ouais, c'est ça. Derrière le départ de Christophe, Jimmy Vico.
Jimmy, ouais, qui était là, d'ailleurs.
Sur le sprint, c'est compliqué. Hein. Dès que tu prends les années, tu perds beaucoup. Donc, effectivement, ouais, il manque quelqu'un pour prendre le lead maintenant sur le 100 mètres. Ouais. Parce que c'est vrai que le 100 mètres, c'est quand même la discipline phare de l'athlète, tu vois, c'est le stade le soir du 100 mètres, il est plein, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un Français sur cette épreuve. Et puis même pour les relais, bon, voilà.
Et puis même le week-end de départ à retraite de Christophe Lemaitre, quoi. On aurait aimé qu'il y ait quelqu'un qui nous sorte une perf stratosphérique, malheureusement, ce n'est pas arrivé.
C'est des générations. Hein. Là, il y a des grosses générations dans le demi-fond, faut espérer que ça arrive aussi. En sprint, quoi.
Tiens, on le dit depuis le début de ces Olympiades, hein, cette quête des tickets olympiques, comme ça, pour les Français. L'une des belles histoires, il est en direct avec nous, justement, c'est Corentin Le Clésio qui est là. Salut, Corentin.
Salut tout le monde.
Quelle histoire.
J'espère que vous allez bien.
Ah bah oui, Corentin est passé de la 600e au top 20 mondial sur 800 mètres et pam, il allait chercher sa qualif pour Paris 2024. Quelle histoire pour toi. Je te fais le tour de table. On est avec Oriane Miton du TRC, avec Johan Durand. On est avec Nico Daru aussi, champion de France du 3000 steeple, et avec notre vice-champion de France du 1500 qui est avec nous, Maël Gouillette. Bah, Corentin, quelle histoire. Merci d'être là déjà. On a parlé de guerre des étoiles pour le steeple. Bah, c'était pareil pour vous. Vous étiez 4 pour 3 places. Et en plus, avec des profils déjà identifiés et connus du grand public. Évidemment, Gabriel Thual, un de nos amis qui est champion d'Europe, qui a décroché le titre de champion d'Europe à Rome. Benjamin Robert, qu'on connaît très bien. Yanis Mezian, qui s'était révélé l'an dernier et qu'on voyait forcément se qualifier pour Paris 2024. Et puis toi, qui étais là, tapis dans l'ombre, et qui a su faire la différence au bon moment. Alors, autant Nico Daru a eu de la pluie et une piste détrempée, vous, c'était plein soleil, 13h30, quoi. Pas les conditions idéales, du coup, Corentin.
Ouais, bon après sur 800 mètres, c'est pas mal non plus un petit peu de chaleur parce que mine de rien à l'échauffement on a besoin de chauffer le corps bien comme il fallait et non bon quand on faisait les gammes en plein cagnard on voyait que ça chauffait bien et que c'était bien tendu avant la finale.
Ton histoire est folle, c'est vraiment l'histoire qui fait rêver tous les fans de sport, c'est arrivée tardive à l'athlétisme. Au départ t'étais plutôt tourné vers le handball, tu te mets à l'athlé, tu vois que t'as des qualités, tu fais du 300, on te dit bah dirige-toi vers le 800. Les résultats arrivent vite. Et ce qui est dingue pour toi, c'est que la fenêtre est magnifique. Les Jeux de Paris arrivent. Tu t'y mets à fond. En 2 ans, je le disais, tu passes de la 600e au top 20 mondial. Et là, tu fais minimal 22 juin et hop, tu valides ta place au championnat de France. En fait, tout était réglé comme du papier à musique, quoi.
Ouais, réglé comme du papier à musique, je sais pas, j'aurais préféré faire les minima peut-être un peu avant. Ça
ouais, c'est sûr.
Un peu de stress la dernière semaine, mais non, c'est sûr que ça a été, on va dire, les 7 derniers jours un peu fous. Après, voilà, j'avais la petite déception de ne pas avoir été pris pour les Europes. J'avais loupé les minima pour 2 centièmes. Ouais. Mais je pense que ça m'a servi de pouvoir refaire un bloc de travail, de repartir en stage, et je pense que ça a été bénéfique.
Vous l'avez suivi ce 800 fantastique, ouais. Oriane et Johan, et c'est parti super vite. Un premier tour, 50
ils sont passés en 50-68, je crois, le premier 400.
Ouais, ouais.
Un truc de dingue.
Bah, c'est surtout sa course qui est intelligente, parce qu'au 200, tu te dis, bon, bah, c'est réglé, il est loin, tu vois, les trois se détachent, et même à l'entrée de la dernière ligne droite, tu le vois pas, Corentin, tu te dis, bah, voilà, c'est... Et puis il revient de nulle part, et termine une dernière grosse ligne droite, et même tu rajoutes 10 mètres, il va chercher Benjamin Robert qui est devant. Hein.
Ouais. Mais ça, c'est la spécialité de Corentin, de toute façon. Je crois qu'il était 7e à 200 mètres de l'arrivée, et il finit 3e en sortant de nulle part, en mettant une énorme boîte les 100 derniers mètres.
Corentin Raquille, en fait.
C'est ça.
Ouais. C'est
ça.
Non, mais bah, Corentin, quel était ton état d'esprit au départ? Parce qu'on le disait, il y a quand même des mecs identifiés. Il y a Gabriel Thual, champion d'Europe. Il y a Benjamin Robert qui est là depuis longtemps. Bon, Yanis, on sait que c'est un gros talent aussi. Tu vas sans pression, du coup? T'es parti comme ça hier?
Ouais, bah, j'avais plus de pression en série de me faire éliminer. Voilà, les séries, c'est forcément piégeux. On est 24. Ouais. Il n'y en a que 8 en finale, donc il y avait un peu plus de stress samedi, mais là, au final, la course de samedi m'a fait vraiment du bien, même dans les jambes. Et j'ai retrouvé un peu de rythme entre samedi et dimanche. Et on espérait, avec mon coach Vincent, une course plutôt rapide, parce que ça me réussit au final. J'arrive à finir fort, même dans des temps de passage assez rapides. Mais en même temps, on savait que personne allait vouloir prendre le lead. Personne, sauf Youssef, du coup, qui nous a fait un premier 400 mètres. Ouais, même une course folle, franchement. Et non, j'étais plutôt bien placé au moment du rabat. Et après, je me fais un peu aspirer, je prends 2-3 coups. Et entre le 400 et le 500, c'est un peu dur. 500 et 600, je me dis que je suis pas si loin que ça quand même de Benjamin et Yanis, même si je vois que Gabriel commence à s'envoler. Mais de voir que de Benjamin et Yanis étaient pas si loin que ça dans ma tête, et ben... ça m'a vraiment motivé à déclencher et à essayer d'aller en chercher un au moins pour essayer de valider mon ticket, quoi.
Et tu déboîtes Yanis à 40 mètres de l'arrivée, hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein.
Ouais, c'était vraiment à la toute fin. Et je revenais, ouais. Mais je voyais que la ligne ça s'approchait en même temps. C'était chaud.
Lui aussi, parce que c'est une des images difficiles, on a parlé de Gilles Ali sur le 3000 steeple. Là, on l'a vu en larmes, Yanis, qui était inconsolable, parce que là, c'est un rêve qui s'envole aussi. Et c'est ce que je disais à Nico Daru, qui est toujours avec nous, c'est Corentin, c'est les émotions particulières. Toi, tu vas chercher ta qualif, donc tu es dans une certaine euphorie, et puis tu vois un de tes potes qui est au sol et qui, lui, passe à côté de son rêve, quoi.
Ouais, non, c'est sûr que ça fait mal au cœur, surtout que, bah voilà, Yanis, il a été vu comme vraiment la pépite qui est montée l'année dernière. Maintenant, il allait forcément avoir un de nous quatre qui est dans cet état-là. À l'arrivée de la course, après, voilà, j'espérais juste que ça soit pas moi, et que même si j'adore Gabriel, Benjamin, Yanis, c'est
non,
juste
c'est
que
sûr, après, chacun pour sa pomme, c'est le
trois places. Ouais, ouais. Mais non, bien sûr que j'ai été voir Yanis tout de suite après l'arrivée, et bien sûr que ça m'a fait vraiment mal au cœur de le voir comme ça.
Dis-moi, Johan, quand on fait une première sélection en équipe de France aux Jeux de Paris 2024.
Première sélection tout court, même pas chez les jeunes, rien. Eh oui.
Donc quand il faut aller à Ostrava faire des championnats d'Europe tout pourri ou des trucs.
Non, là, lui, il va pas en Roumanie faire un match en salle, tu vois. Non, non, il vient, c'est les Jeux. Il prend le Lacoste. Voilà.
Juste, Corentin, ne t'habitue pas trop, hein, le défilé, la cérémonie d'ouverture,
c'est pas toujours
tous ces
comme
trucs,
ça,
hein. L'ambiance au Stade de France, la piste violette, ça va pas se passer comme ça tous les ans.
Bah des fois, il y aura des stades vides.
Non, mais c'est fou quand même, aucune sélection, et tu vas découvrir tout ça, le pactage et tout pour les Jeux, quoi.
Tu sais, quand il a fait les minima, Je me suis dit, bah lui, va aller au jeu. Je le voyais pas sortir des 4 parce que je me suis dit, lui, il est sur son nuage.
Sur l'euphorie.
Lui,
ouais.
Sur l'euphorie, c'était la semaine avant, il fait les minima.
Bah ouais.
Je me suis dit, lui, il est forcément dans les 3. Lui, il sortira pas parce que je me suis dit, il a rien à perdre. Il est sur son nuage, il vient de faire les minima. Personne l'attend, personne. Pas de sélection, rien. Bah, tu verras qu'il sera sur le podium. C'était sûr et certain, j'en étais persuadé. Et parce que quand t'es là, il était inarrêtable, quoi. T'es instoppable quand tu. T'étais pas. Enfin. C'est quelque chose qu'il avait envie, mais tu vois, il n'était pas programmé pour ça. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et du coup, il n'avait rien à perdre, un peu comme Nico. Et effectivement, bah, voilà ce qui arrive. Et il va vivre une aventure de dingue. Ouais.
Tu aurais été extrêmement déçu de louper les jeux ou tu t'en serais remis assez vite, Corentin, à ton avis?
Je pense que j'aurais été déçu sur le coup parce que passer si près d'une qualification pour des jeux à la maison, même si bon la sélection n'est pas encore sortie, mais
oui.
Ça aurait été vraiment, je pense, un coup dur sur le moment, mais j'aurais, je pense, très vite relativisé au final j'ai quand même fait une saison incroyable.
Ah ouais.
Cette dernière année est quand même folle. J'ai fait des choix qui peuvent paraître très risqués, qui au final se sont avérés payants. Donc voilà. Et puis, non, dimanche, je me suis dit que de toute façon, j'avais rien à perdre. Et d'avoir vu Nico gagner le steeple pendant que j'étais en train de faire ma récup, voir Romain et Maël aux deux premières places, c'est des belles histoires aussi. Et du coup. C'est sûr que ça motive et on y pense un petit peu quand on est à l'échauffement le dimanche.
Ouais. Vous l'avez regardé ce 800 de folie, les gars, Nico et Maël? Nico, tu l'as vu? Ouais.
Ouais, bien entendu. Ouais. J'étais au bord du stade et en plus, j'étais au bord du stade avec tout le groupe d'entraînement de Coco. Donc forcément, j'ai vécu ça d'une manière spéciale. Et puis, comme je lui ai dit, je lui ai envoyé un message à l'issue de sa course. En fait, on a beau savoir comment il court. Franchement, quand je l'ai vu passer devant moi à 200 mètres de la ligne, je me suis dit putain, mais
c'est mort.
Il le fera pas. Loin. Et puis en fait, même comme ça, il arrive encore à me surprendre en fait, même en connaissant sa tactique de course.
C'est vrai qu'on a beau être habitué que ce soit la même chose à chaque fois que.
Et surtout sur des distances aussi dures.
Et à chaque fois, on n'y croit pas. Et puis au final, il nous surprend.
Ouais. Bah, Nico, raconte-nous l'émotion du clan Coco. Alors, c'était comment? Ils étaient comme des dingues. Une fois que la ligne a été franchie, là, c'était explosion de joie.
Ouais, en fait, il y a eu un grand silence dans les 3 secondes qui ont précédé la ligne. Et puis d'un seul coup, il y a eu une explosion. Je crois que le coach de Coco s'est retrouvé avec 4-5 personnes sur lui. C'était assez incroyable à regarder de l'extérieur. Ouais.
Ouais. C'est une drôle d'histoire. En plus, le coach Vincent Guyot, que vous pouvez suivre sur les réseaux, hein, qui est très calé athlé depuis longtemps, qui s'est engagé avec ton sponsor, la marque suisse ON. Corentin, vous avez une relation très forte, mais c'est un jeune entraîneur aussi, donc c'est beau. Votre histoire commune est belle en tout cas.
Ouais, bah c'est sûr, c'est un jeune entraîneur. Je lui ai fait confiance en début d'année. On était voilà déjà de très très bons amis. C'est on va dire ces 3-4 dernières années, on parlait beaucoup. Il s'intéressait beaucoup à l'athlé, etc. Il analysait beaucoup les courses. Il m'envoyait toujours mes temps de passage et de temps en temps on discutait entraînement, mais ça n'a jamais été dans l'optique que ça devienne mon entraîneur jusqu'au début de l'année, quoi.
Est-ce que Maël, tu l'as vu la course, toi, de Corentin?
Ouais, alors moi je l'ai vu sur mon portable parce que j'étais sur le chemin en retour pour Font-Romeu, là, je suis en altitude là-bas.
Okay.
Et j'étais à l'aéroport et j'ai vu la course et j'ai crié. Et les gens ils ont dit, mais qu'est-ce que Non, j'étais super content pour Coco parce que on a partagé des meetings sur le circuit cette saison, que ce soit à Marseille, à Nancy. Et puis voilà, c'est vraiment, je suis trop content pour lui et je te félicite en direct, Coco, même si t'as envoyé un message, tu l'as vu. Donc non, franchement, c'est juste incroyable. Et comme je le dis, on a une jeune génération en France qui pousse tout le monde vers le haut, en fait, que ce soit sur toutes les disciplines. Et je pense que ça crée une émulation collective. En fait, il n'y a plus de complexe d'infériorité, des choses comme ça. Voilà, on est une jeune génération, on a envie d'aller chercher des sélections, des médailles. Et ça, voilà, ça tire tout le monde vers le haut et c'est juste incroyable.
si on prend un peu de recul sur 800 mètres.
Merci Maël de me considérer dans la jeune génération.
Là, oui.
Ouais, Nico. Nico, tant que t'es jeune dans la tête, ça suffit.
Ouais,
t'inquiète pas. Et rassure-toi
ouais,
comme
ça,
tu
ouais.
peux.
J'ai un bon exemple avec Yodu.
Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. T'es beaucoup plus jeune que Johan Durand. Et ça, ça, c'est quelque chose. Ouais, si on prend un peu de recul sur le 800 mètres, Johan, il y a une confirmation quand même. C'est le niveau de performance de Gabriel Tual, être capable comme ça d'aller chercher son titre de champion de France. Nous, on l'adore aussi, on l'avait reçu ici, on avait expliqué justement sa démarche avec Amaury Delerue, l'ancien arbitre de Ligue 1, sa démarche de coaching mental et tout. Tout ce qu'il met en place, ouais. Eh bien, ça se retranscrit sur la piste. Et ce qui est fou, c'est que c'est, on avait l'impression que c'était Benjamin Robert un peu la tête d'affiche de cette discipline en France. Et là, en l'espace d'un an, bah, voilà, le rapport de force s'est inversé. C'est vraiment Gabriel qui a pris le lead sur le 800 mètres.
Ouais, puis il est en pleine confiance. Hein. Il est champion d'Europe à Rome. Là, il met une seconde à tout le monde. Une seconde sur un 800, c'est monstrueux. Ouais. Dans une course rapide, il fait une 43,99. C'est le record des championnats, je crois. Ouais. Donc, très fort, très en confiance. Pas de pépins. L'année dernière, il s'était fait la clavicule et il avait perdu du temps. Il avait couru un peu pour un peu sauver les meubles pour Budapest. Mais là, il arrive. Pour moi, il a sa place largement en finale des Jeux. Et après, en finale, il peut vraiment faire mal, même si. L'Algérien et le Kenyan, là, je sais plus leur nom, mais qui sont costauds.
Jati et Wanyoni.
Voilà. Qui ont l'air très forts, mais après à Paris. Ouais, il a raison.
Oui, il a raison.
Parce que bientôt, c'est eux qui vont le connaître.
Et voilà, c'est ça. Ouais.
Mais Gabi peut faire un top 5 au jeu sans aucun problème.
Et déjà, on a tendance à oublier que Gabriel, il a déjà fait à Tokyo en 2021, il a fait 7e, je crois.
Ouais, bien sûr.
C'est ça.
Et c'était un peu passé inaperçu quand même à l'époque, j'ai l'impression. Mais là, on se rend vraiment compte que. Ouais,
parce qu'il nous l'avait dit ici, d'ailleurs, il avait un peu subi cette finale. Et en fait, il l'avait mal vécu, tu vois. Donc,
L'expérience à Tokyo, pour le coup, elle n'était pas.
C'était particulier.
Et puis les Jeux de Tokyo, c'était particulier.
Oui, en plus. Juste Corentin, l'impression sur la piste, Gabriel, il était bien au-dessus des autres.
Oui, clairement. Physiquement et tactiquement, c'était clairement le plus fort hier. Et déjà en série, c'était le plus fort. Il a vraiment continué sur sa lancée après les championnats d'Europe. Au championnat d'Europe, il a vraiment fait un sans faute. Tactiquement, il est très très fin, très intelligent et dès qu'il fait un choix, il le fait à 100% et c'est ce qui fait qu'il est aussi performant, qu'il a été champion d'Europe et qu'il est champion de France et qu'en plus de ça, il bat son record. C'est que voilà, il n'a pas d'hésitation, il est sûr de ses choix et tactiquement, il est vraiment très très fort et je pensais de toute façon que c'était le plus fort sur le papier avant la course.
En plus, vous avez eu la chance de courir devant le boss, hein. Pierre-Ambroise Boss, qui était là, on rappelle, hein, champion du monde à Londres en 2017, recordman de France de 800 mètres en 1:42.53. Ça permet de vous rappeler, si vous ne le savez pas encore, qu'il fera partie de la Dream Team RMC, Pierre-Ambroise Boss, sur l'athlétisme. Donc, il sera avec nous. RMC, c'est la radio officielle des Jeux Olympiques. Il sera avec nous en bord de piste. Pour analyser toutes vos courses, justement. On vous remercie à tous les champions d'avoir été là. Donc, Nico Daru, notre junior qui était là. Merci, Nico. Profite bien de tes Jeux Olympiques.
Merci à vous.
Et on est vraiment content pour toi. On remercie Corentin Leclésio qui était là aussi. Merci, Corentin.
Merci beaucoup.
Bonne prépa, les gars. Bonne prépa jusqu'à Paris. Et on remercie également Maël Gouillette. Merci, Maël.
Merci, c'est gentil.
Merci à vous trois. Oriane, je te garde. Johan, toi aussi, on passe tout de suite au bon plan matos.
RMC, les conseils de The Running Collective.
Eh oui, les conseils de The Running Collective, parce que c'est Oriane qui, en plus, réalise le test du matos, de l'équipement. On met en avant la Oka Cielo aujourd'hui. Donc, c'est la chaussure performante de chez Oka, la marque originaire des Alpes. Oka, c'est vraiment la référence désormais en trail et aussi sur route. Il y a beaucoup d'athlètes qui courent en Oka, notamment les Rockets qui avaient été une grosse réussite. Là, on met en avant une Cielo aujourd'hui. C'est un top modèle. Hein. Je ne sais pas si tu l'as essayé du coup, parce que tu as fait le test, Oriane. Est-ce que tu t'es régalé
essayé,
avec
ouais, ouais. Bah, pour le coup, ouais, ça fait. Oka, c'est vrai que c'est une marque qui a mis un peu de temps à se développer sur la route.
Ouais.
Qui était surtout connue. Bah, c'est une marque qui est née dans les Alpes. Donc, forcément, au début, c'était plutôt pour le trail. Et là, ça fait, je pense, 2-3 ans que Oka, c'est devenu. C'est une marque qui est venue concurrencer les plus grandes marques de running route. Et la Cielo X, c'est vraiment l'un des meilleurs modèles de la marque pour toutes les compétitions sur route pour aller vite et battre son record. Quoi.
Là, on s'adresse à des coureurs confirmés, en revanche, hein, des coureurs qui vont chercher de la performance, du marathon en moins de 3 heures et ce genre de choses. Quoi.
Plutôt, ouais, c'est vrai que pour courir un marathon en 3h30, 4h, on n'a pas forcément besoin de ce genre de modèle et je ne pense pas que ce soit le modèle qui soit adapté pour courir sur des allures entre guillemets plus lentes. Mais dès qu'on a un peu de pied et qu'on veut aller vite, c'est ce genre de chaussures qu'il faut mettre. Ouais.
On peut faire de la route, du 10K, du semi et du marathon, tu penses, avec ouais.
Pour le coup, ouais, c'est le genre de chaussure qui est assez polyvalente. C'est une paire où, voilà, qui a le confort nécessaire pour courir un marathon et qui est en même temps assez réactif pour commencer dès le 10 km.
Voilà, avec cette mousse si particulière, bah, Johan ne peut pas la tester puisque ce n'est pas son équipementier, mais c'est vrai que c'est de la top chaussure.
Je ne peux rien en dire.
Ouais, malheureusement. Nous, on vous le confirme.
Si, qu'elle est jolie.
Ouais, elle est très belle. Alors, il y en a une collector hein, quand même. C'est celle, la OK Rocket qu'on vous a fait gagner de notre ami Duncan Perilla, parce que c'est celle qui a été découpée lors du record du monde. Voilà, c'est vrai. C'était dingue. Mais non, en tout cas, c'est une très bonne chaussure. On est ravis de vous faire gagner une paire. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous allez sur nos réseaux, vous répondez à un test d'écoute. Qu'est-ce qu'on va faire comme test d'écoute Je te laisse choisir, Johan. Est-ce que tu as une idée comme ça qu'on peut faire?
Je sais.
Vous allez me donner le nom de l'athlète américaine qui a fait le record du monde le week-end dernier, donc du 400 mètres haies. Voilà, vous le mettez en test d'écoute sur Strava, sur Instagram. Je l'ai mal dit, donc allez voir sur Internet. Voilà. En plus, c'est un nom composé parce qu'elle a le nom de son mari aussi, donc allez bien vérifier ça. Et comme ça, vous participez au test d'écoute et on sera ravis de vous faire gagner cette chaussure. D'ailleurs, juste un mot, ouais, si on peut terminer là-dessus, Oriane et Johan, parce qu'il y avait les trials américains qui se sont terminés. On aura la chance d'avoir Noah Lyles sur 100 et sur 200. Il y a eu de grosses performances là aussi. Là, on sent que ça y est, tous les athlètes mondiaux sont prêts pour Paris. Hein. C'était un moment important.
Ah bah là, un mois de l'échéance des Jeux Olympiques, effectivement, tout le monde est prêt. Il y avait la coureuse de 800 américaine qui est tombée.
Quelle histoire, c'était horrible, hein, la pauvre.
C'est dingue, là. Bah, tu vois,
c'est la
cruauté de cette histoire-là et de ces qualifications-là. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Yacine et de Gila, mais là, c'est pareil aux US. Donc effectivement, il y en a qui restent à la maison et donc ça veut dire que les autres, ils arrivent avec une envie décuplée aussi parce qu'ils ont toute conscience de la chance qu'ils ont de participer aux Jeux Olympiques. Donc, et puis là, ça monte en puissance, il reste 30 jours, donc là, il faut bien s'entraîner, mais pas trop pour pas risquer de te blesser ou avoir un petit pépin physique. Là, c'est le difficile équilibre entre l'envie et l'intelligence, quoi.
Et il y a Shakari Richardson qui ne sera pas alignée sur le 200. Elle s'est ratée sur le 200, vous avez vu ça?
Ah non, j'ai pas vu.
Elle a raté le 200, donc elle sera uniquement sur le 100. C'est une sensation quand même de l'athlétisme mondial, mais voilà, il n'y aura pas de 100 mètres pour elle. Donc là aussi, c'est une surprise pour les Jeux de Paris.
Ça fait des places un peu pour les autres aussi. Donc
ouais,
ça ouvre un peu.
Ouais, c'est sûr que les concurrentes doivent être contentes. Ouais, parce que là, ça fait des places à aller chercher. Alors, en un mot, Noah Lyles, vous pensez que ce sera la star des Jeux au niveau de l'athlète?
Ouais, je pense. Même en termes d'image, c'est quand même... C'est pas n'importe qui. Donc
ouais, voilà.
Que,
ouais. Bien sûr.
Ouais, avec Duplantis. Ouais. Lui, Duplantis. Et puis
Tambéry, peut-être.
Voilà ce que j'allais dire. Ouais, Tambéry, au saut en hauteur, il peut nous faire un petit show. Voilà. Mais ça va être eux, les stars.
Et puis, je vous lâche pas comme ça. Vous allez me donner un petit pronostic. L'équipe de France va faire combien de médailles? Est-ce qu'on va en faire une 12. Déjà
12, ça serait bien.
Ah, mais moi, je parle tous les sports.
On parle de l'athlé. Est-ce qu'on aura une médaille en athlé? C'est ça la question.
Bah, bien sûr. Oui,
bah,
oui.
Bah, qui? Mouille-toi, qui alors?
Bah, Sacha.
Ouais. Kevin.
Gabriel. Kevin.
Alice Fino, peut-être.
C'est 4.
Alice. Thibaut Collet à la paire.
Ouais, on aura 12 médailles en athlé.
Yann Schrub au 10 000.
Sinon on fait pareil qu'aux Europes et puis voilà. On est bon, hein. Bon,
Mais je pense qu'on en fera même un relais mixte. Mais je pense qu'on fera pas zéro médaille, ouais. Mais par contre on fera sur les places de finalistes et dans le top 8, on aura vraiment un gros potentiel beaucoup d'athlètes pour aller en finale et faire des top 8. Après, peut-être qu'il manque une petite marche, mais en tout cas, on sera présent en finale. Ouais.
Bon, bah tant mieux. Merci, Oriane, d'avoir été là. Merci, Maître Yodu. Je rappelle, les épreuves d'athlée aux Jeux Olympiques, ça démarre le 1er, ça se termine le 11 août. C'est sur RMC, la radio officielle. On va essayer, dans RMC Running, de vous faire vivre ça au quotidien. On aura la chance d'être au stade, donc on vous fera vivre tout ça de l'intérieur. Ça va être une période merveilleuse. On ne vous lâche pas tout l'été. On sera avec vous. Il y aura des épisodes inédits tous les samedis. Donc, restez bien à l'écoute. RMC Running ne s'arrête jamais. On vous remercie une nouvelle fois du soutien. Grâce à vous tous, on est recordman du monde. Donc, merci à tous. Et je m'excuse par avance du choix musical douteux qui a été effectué par un homme en vacances. C'est Geoffrey Charpillier. Déjà, il m'a dit je prends du Nolwenn Leroy. Et alors, écoutez ce qu'il a choisi. Ça, c'est hommage au TRC, à tous nos athlètes bretons. Et le loup, le renard et la belette.
Ah, c'est ça ?
Il a osé. Il a osé. Oh, il doit écouter ça, Maël Gouillette, je pense.
Ouais, c'est sûr.
Ah, mais, moi, ça, mais vous écoutez vraiment ça ?
Mais c'est sûr. Je pense que Maël Sico, qui nous écoute souvent et qu'on embrasse, doit écouter ça sur son vélo.
Oh, quel enfer. Ah,
mais il y a Charles Perrault avec nous qui est en train de danser dans le studio. Mais c'est des fous, ce mec. Incroyable.
Ah, ça fait mal aux oreilles, bon. Quand même.
Allez.
Ça siffle.
On va se quitter sur cette belle note de musique. Merci, Yodu. Merci, Oriane. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous. Je m'en irai, la jument de Michaud.